Ainsi, ne peut-il plus sortir du cercle, fait comme un triangle, maman, papa et l'autre. Il n'échappe à celui-ci qu'en se jetant vers celui-là. Le rêve ne ment pas. Les ennemis sont à l'intérieur de la ville. La nuit, ils sont les rois. À 7 heures, on se lève, mal éveillé, et la journée recommence. « J'en ai marre !» dit tout haut Michou. « Marre, marre, marre !»« Il faut que ça change !» pense-t-il aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut qui change et comment ? Connaître les mots et les dire. Maman, essoufflée, monte l'escalier, pauvre vieille. Elle vient relancer Michou pour qu'il aille au catéchisme. À coup sûr, ce n'est pas au catéchisme qu'on lui apprendra les mots. Mais à quoi bon attendre que maman ouvre la porte ? Il peut lui épargner cette peine. « Je viens » crie-t-il. Cependant, il se gronde. « Tout doux ! Il convient de prendre des précautions accrues si je ne veux pas donner prise à la méfiance. » La prudence du serpent l'habite lorsqu'il enfile son veston, prend à la main le petit livre couvert de papier bleu. On attend beaucoup de lui. Tout partira de la boulangerie et il faut qu'il se découvre une aide, un camarade qui lui soit corps et âme dévoué. Ensemble, ils rechercheront la maison de la dame. Quand Michou repense à la pergola, un espoir l'oppresse, qui peut être une crainte. Ensemble, ils rechercheront la maison de la dame, et pour tout cela, il faut se dépêcher, parce que maman va mourir, et que papa va disparaître tout à fait si Michou ne se presse pas. Parce que la répression sera terrible si j'échoue. « Et sois ici à l'heure, » dit maman. « Tu peux être ici à 11h30 si tu ne restes pas à jouer. » Étendu sur le lit, nu et sentant son corps, il regarde Françoise. Une chaleur le pénètre avant que les mains de Françoise l'aient touché. Une chaleur qui est en lui et hors de lui, tout à la fois, comme s'il était la coquille et l'œuf. La femme vient vers lui, sans hâte. Elle se maîtrise, elle se contraint à ne pas courir, mais l'apaisement de leur faim s'étend au-delà des contraintes, comme cette chambre, qui n'est rien de plus qu'une chambre d'hôtel, par on ne sait quelle métamorphose, a toute l'intimité, le secret d'un chez-soi. Cette chambre est le choix du hasard, mais tout de suite elle leur a convenu. Une autre chambre, sans doute, aurait convenu de même. Ils ont aimé l'armoire basse avec sa glace unique, le couvre-pied orange du lit et le rideau de velours, orange aussi, plus sombre, que Françoise tire en arrivant d'un geste machinal. Leur chambre. D'une rencontre à l'autre, ils demandent au patron qu'elle leur soit réservée. Les 3 premières fois, ils ont rempli des fiches et signé de leur nom. Maintenant, le patron ne l'exige plus. Et Jean n'a même pas félicité Françoise de ne pas avoir hésité à donner son vrai nom. Lorsqu'ils sont ensemble, ils se taisent. Plus rien n'existe pour eux que cette espèce de danse. Si, une minute entière, ils ne se sont ni regardés, ni souri, une obscure présence tout à coup les mutile. La présence, oui, de la menace d'une séparation. Lorsque, pendant 1 heure, ils n'ont pas été nus, se caressant, l'inquiétude leur vient d'avoir tout rêvé et leurs yeux s'attristent. Parfois, dans le silence, Françoise murmure « Bonjour, toi !» Soupir heureux, appel aussi, avertissement de ne pas laisser inemployer le peu de temps qu'ils passent ensemble, puisqu'on ne sait pas ce que réserve l'avenir, puisque tout est possible, en somme, puisque si longtemps la chair leur est demeurée inconnue. puisque des hommes, des femmes vivent toute leur vie sans la connaître. Quelquefois, à ces hommes, à ces femmes, ils songent, lorsqu'elles s'approchent de lui, couchées. On dirait que cette pensée les rend craintifs et pitoyables. Elle ralentit le pas de Françoise et contraint Jean à l'immobilité. Mais, si longues que soient ces secondes, d'autres les suivent. Et la femme est trop près de l'homme. Il tend les bras. Elle s'y jette à l'instant qu'elle s'étend près de lui, de sorte qu'on ne sait pas si d'elle-même elle est venue vers lui ou si, plutôt, il ne l'a pas attirée, arrachée à l'emprise d'un monde vidé d'amour. Dès la première apparition de Françoise nue, le chignon dénoué, il s'est abandonné à un émerveillement que, jeune homme, il n'avait ressenti devant aucune femme. Le sentiment, à peine posé sa bouche sur l'épaule ou sur le sein de Françoise, que depuis toujours il attendait cette minute et qu'elle lui était réservée. Le plaisir que l'idiot, le libertin idiot, croit la fin de l'union charnelle qu'il est peu de chose près du reste, les lèvres courant de la hanche au ventre, que le ventre baise, les mains enfermées dans l'objet qu'elles tiennent, les jambes à la fois captives et maîtresses, les yeux vus par ce qu'ils voient, que serait tout cela sans l'image inversée que s'en font deux esprits? La joie de Françoise est creuse comme la mer lorsque y tombe la pluie d'août ou le feuillage lorsqu'il s'ouvre pour qu'au travers se glisse un animal des bois, fuyant la chasse, ou la source où roulent des galets ronds et blancs qui font rire l'eau. Sa joie est de sentir en elle, grotte profonde, horizon, plaine, progresser l'envahisseur, et que les cercles du désir, l'un plus que l'autre, s'étendent autour du jeté de la pierre. La joie de Jean crie, comme l'œil qui rencontre une éclaircie dans l'épaisseur de la forêt, la pluie d'août qui tombe sur la mer. Mais la source ne serait que de l'eau, sans les galets. La pluie est faite pour nourrir la mer. Si l'œil jamais ne s'ouvrait sur l'éclaircie, toutes les forêts seraient aveugles. Quand il pénètre Françoise, comme le maître va et vient dans sa maison, heureux du confort qu'il y trouve et plein d'amour pour la maison qui le lui donne, quand il ne tend pas au vrai qu'à son plaisir, Jean le voit. Illimité, Françoise, alors, s'éclaire. Une étincelle court dans ses jambes et ses bras, comme dans le bois, lorsqu'elle tord une flamme invisible. Il ne saurait dire, ni elle, quand, pourquoi cela se fait. Dès qu'ils sont l'un dans l'autre, une progression s'ordonne, qu'interrompt seul leur anéantissement, leur double mort, après la retombée de l'autre côté, bien que cette mort même ne rompe pas l'étreinte, ne divise pas ce qui ne peut être divisé. Ce qui rompt l'étreinte et les sépare, c'est le réveil. Quand ils reviennent dans la vie, où rien n'est prêt, ils le découvrent, pour les recevoir. « Il faut te lever, mon chéri. » Elle obéit sans un mot, elle court s'enfermer dans le cabinet de toilette, et il allume une cigarette, premier pas vers le retour, vers la séparation, difficile marche à reculons dont il faut payer l'évasion du voyage. Aujourd'hui, Jean s'assied à table dans le silence, déplie sa serviette, attend. Michou renverse son verre empli de vin étendu d'eau et personne ne le gronde. Dans le silence, maman les serre avant de s'asseoir entre eux. À qui pense-t-il? Le fils et le père, également distraits. Si elle leur pose la question, ils répondront en invoquant l'un sa dernière composition de latin, dont il n'est pas très satisfait. Il sera encore 27e sur 30. L'autre, le dernier vol du poisson. Mais quel souci professionnel, scolaire, justifierait cette volumineuse absence? Il est à craindre plutôt, si maman parle, que la conversation, comme la dernière fois et comme l'avant-dernière, ne s'aiguille sur Irène, sujet tabou, sujet de feu, qu'il vaut mieux fuir, bien que le silence soit pire que tout pour une vieille femme. La présence de l'amour, près et hors d'elle, lui est une menace, une injure. Elle ne peut penser qu'à ça. L'injure que Jean lui fait de ne plus rien lui confier de ses peines et de ses joies, la menace de l'inconnu qui, du silence, peut jaillir, dont on ne prend conscience que trop tard. « Tu dîneras avec nous demain soir, pas ?»«
Quel gosse bizarre !» dit Jean. « Toujours à vivre dans l'avenir. »«
Tu seras là, dis ?»«
Je ne crois pas, Michou. »
Il n'essaie même plus de feindre, il n'invoque plus son travail, il ne sourit pas non plus, comme autrefois lorsqu'il disait
« Tu verras, Michou, quand tu seras grand, toi non plus, tu ne dîneras pas tous les soirs à la maison. »
Mais on croirait que malgré lui-même, il est conduit à refuser à son fils la petite joie de sa présence. Que va-t-il sortir de tout cela? Et après-demain?
Je ne crois pas.
« Il est tard, Michou, dit maman. Au lit. »
« Oh, pas déjà.
Allons, Michou. » Inflexible, maman est de bois. Elle a pris peur, soudain, de l'effrayante franchise, peur d'entendre prononcer la parole irréparable. Elle est venue au secours de Jean pour se protéger elle-même. Cela, Michou ne le comprend pas, mais il pense
« Elle ne regardera pas la pendule sur le buffet. Elle ne vérifiera pas qu'il est à peine 9h10. Elle se veut sourde, aveugle, mauvais signe.
« Je peux pas rester un peu, pas ?»«
Je ne peux pas, Michou !»
La voix de papa est lointaine, molle, un autre sourd.
« Allons, bonsoir, Michou !»«
Soir pas, soir ment !»
Le lit, après tout, offre cet avantage, la solitude. Michou est la solitude, il en a peur. Mais il lui faut d'abord vaincre sa répugnance s'il veut mériter d'être un jour le libérateur de la ville. Et la solitude aussi lui est nécessaire pour établir son plan d'action. Ne doit-il pas, sans aller plus loin, savoir ce qu'il va dire à Georges demain? Georges Rombaud, le second qu'il s'est choisi.
Tu ne devrais pas, maman, traiter Michou de la sorte. C'est un enfant sensible. Je me demande si nous ne sommes pas fautifs vis-à-vis de lui.
Michou a fait 5 ou 6 pas dans le couloir quand cette phrase, entendue, claire et forte, l'immobilise. Maman répond.
Je ne croyais pas l'avoir si mal élevé jusqu'à présent. Mais peut-être n'est-ce pas l'avis de tout le monde.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Vraiment? Eh bien, tant mieux. Je serais ravie de me tromper. J'aurais cru que... Quelqu'un te conseillait peut-être?
Certainement pas.
Très bien, très bien.
Michou tremble. L'insignifiance des paroles ne l'abuse pas. Les voix sont laides, menaçantes. Maman et papa ne se parlent jamais ainsi.
Je pense d'ailleurs, dit maman, que s'il se produisait quelque chose de cet ordre, je serais la première avertie.
« Tu sais très bien, dit papa, que je ne me marierai jamais. »«
Je ne le sais pas, mais je l'espère. J'espère que l'histoire d'Irène t'aura suffi. Cependant, il y a des femmes qui sont très fortes. Et toute ton expérience, alors, ce sont toujours les meilleurs nageurs qui se noient. »«
Tu as tort de parler aussi souvent d'Irène. On dirait
quoi ?
Que tu ne peux pas l'oublier. »
Moi, je n'y pense pas.
Je n'y penserai jamais sans toi.
Et pour Michou, tu crois que c'est bon? Tu crois que ça le rend heureux?
Je vous aime et je souffre quand je vous vois cruel, secret, ainsi vous déchirer. La nuit épaissit ces cloisons.
Le passé m'obscurcit. Je veux grandir pour que tout cela que je ne comprends pas ne me fasse plus mal. Le plus étrange est qu'il ne crie pas. Il ne crie pas comme je crierais, moi, si je devais dire des choses aussi terribles. Mais au contraire, leurs voix se font lentes et douces pour blesser mieux. En somme, j'ai toujours tort. Tu nous aimes beaucoup, maman. Papa et moi, tu nous aimes. Trop. Pourquoi papa ne répond-il pas cela? Pourquoi dit-il?
On ne peut pas te parler. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu as raison dès le départ. C'est le meilleur moyen d'avoir tort.
Nulle parole ne blesse mieux que le silence de maman.
Quand j'ai amené Irène ici, tu as eu peur, car tu as peur toujours qu'une femme ne prenne ta place. Depuis 10 ans, tu aurais eu le temps de te tranquilliser, mais tu n'as jamais cessé d'avoir peur. Tu dis que tu vas me chercher une femme, que tu veux me marier, c'est ce que tu crains le plus au monde.
« Bonsoir, dit maman, je suis fatiguée. »
Une chaise qu'on bouge, 2 chaises, Michou les imagine, l'un en face de l'autre, debout.
« Non, maman, nous ne parlons pas assez de ces choses-là. »«
Quoi? Quelle chose? De quoi veux-tu parler? Si c'est d'Irène?
Eh bien oui, enfin, parlons-en. » Qu'en saurais-je, si ce n'est par toi? Mais jamais, sur ce sujet, tu ne me réponds. Le silence s'étend et croît comme une nappe d'eau qui monte. Qu'en advient-il plus tard? Où se dissipent-elles ces inondations de silence?
Je n'étais pas là, moi, je ne sais rien, sinon qu'elle m'aimait, et qu'on ne part pas ainsi en laissant derrière soi son fils et l'homme qu'on aime, sans chercher à les revoir.
Tu es naïf, oh, comme tu es naïf.
C'est possible, mais je ne suis pas idiot, maman. J'ai vraiment souffert de cela, tu le sais, et Michou, lui aussi, en a souffert. Je ne veux pas croire, si tu avais pu mettre un terme à cette souffrance, que tu ne l'aurais pas fait. Ce serait « Vas-y maintenant, insulte-moi !»
Nous ne sommes pas des ennemis, maman. Nous ne devrions pas.
Ne t'occupe pas de moi, veux-tu? Je ne me suis jamais moi-même occupée de moi. J'ai toujours vécu pour les autres, pour ton père, pour toi, pour Michou et pour cette femme, tout le temps qu'elle a été ici. Et maintenant, je suis prête, si tu l'exiges, à me soumettre aux caprices de quelqu'un d'autre. Tu peux bien faire ce que tu veux. Une maman voit tout et ne dit rien. Tu n'as plus besoin de mon aide, que je sache, ni de ma bénédiction. Tout ce que je te demande, tant que tu resteras avec cette fille, je te connais, cela ne durera pas, c'est de me dispenser des conseils qu'elle te donne en ce qui concerne l'éducation de Michou. Veux-tu me dire ce qu'elle y connaît à l'éducation des enfants? Elle n'a même pas été capable d'en avoir un.
Le cri s'élève tout à coup. Un cri, enfin.
Pourquoi me regardes-tu comme ça?
Parce que, sans doute, je ne t'ai jamais vue comme ça. Tu étais comme ça avec Irène? C'est cela qu'à la longue, elle n'a pu supporter. Dans le silence, cette pièce noyée de silence, malgré les cris et les injures, Michou s'est adossé contre le mur du couloir. Il a très envie de pleurer. Mais comme il se déteste, comme tout le monde se déteste autour de moi.
Je ne supporterai de personne et de mon fils moins que de tout autre.
Mais qu'attends-tu? Va la retrouver. Le « là » lui reste dans l'esprit, une chose flasque, informe. Avant qu'il ait pensé à rentrer dans le mur, Michou voit son père près de lui. Il sent peser sur sa nuque la rude main de son père. « Que fais-tu là, Michou ?»«
J'avais oublié... »
Un mensonge inutile. Papa s'éloigne, laissant flotter après lui le regret de la caresse, caresse ou meurtrissure, comme un ruban. Michou ne veut pas voir maman. Il l'imagine sans la voir. Ses cheveux blancs tombent le long des joues. Ses yeux ont pris leur couleur d'eau. Des heures de peine, de colère. Sous le rouge dont elle l'a teint, saigne la blessure mince de sa bouche. Il ne veut voir personne et ne veut pas pleurer. Tout ce qu'il veut, c'est haïr. La dame, Irène, la reine des chauves souris, cause des querelles et de la douleur. Tout ce qu'il veut, c'est grandir pour se venger. Puisqu'un jour, nécessairement, il aura l'âge qu'elle a sur la photo, qui louche. Jean ne peut pas comprendre la fureur de maman, plus que maman lui dire comment elle voit Françoise.